1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 et 13. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Bonjour à tous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui sur la septième partie de notre série intitulée « Apprends-nous à prier ». Et celle-ci s'intitule, en harmonie avec la fameuse prière de notre Père, « Ne nous induis point en tentation » ou « Ne nous induis point dans la tentation », ce qui est la même chose. Ce que nous aimerions aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est explorer la signification et les implications des paroles suivantes que nous allons lire, qui sont comprises dans la prière du Notre Père. Si vous allez avec moi dans Matthieu chapitre 6, verset 13, et ce sera la dernière partie de cette méditation sur cette prière que Jésus nous a enjointe dans Matthieu chapitre 6, verset 13. Il disait, ou il nous prescrivait cette prière qui avait commencé au verset 9. Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Verset 13. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Qu'est-ce que c'est? Et ne nous induis point en tentation ou dans la tentation, mais délivre-nous du malin, ou comme c'est marqué dans d'autres Bibles, délivre-nous du mal. Comme c'est d'ailleurs écrit dans la Bible anglaise, King James, and deliver us from evil. Délivre-nous du mal. Ne nous induis point en tentation. Nous voulons explorer la signification et les implications de ces paroles-là. Et pour ce faire, je vous invite à considérer avec moi tout d'abord le rôle de la tentation, plus précisément le rôle que la tentation joue dans nos vies. La tentation joue un rôle dans nos vies, à savoir, c'est un gros problème dans notre vie. La tentation est un gros problème dans notre vie. D'ailleurs, la première tentation qui est relatée dans la parole de Dieu est celle qui est à l'origine de la chute de nos premiers parents en Éden. Et en considérant comment cette tentation s'est présentée et les conséquences qui ont eu lieu en résultat du fait que nos parents aient cédé à la tentation, nous permettent de conclure que la tentation et nos réponses à elle est ce qui détermine à la fois qui nous sommes et ce qui façonne notre caractère. La tentation et nos réponses à elle, c'est ce qui détermine qui nous sommes, et c'est ce qui façonne notre caractère. La tentation nous est donnée pour déterminer et façonner notre caractère par notre et nos réponses à elle, à savoir la manière dont nous répondons et réagissons à et aux tentations vont déterminer qui nous sommes et vont façonner qui nous sommes, notre caractère. Selon que nous résistions ou que nous cédions à la tentation. Vous allez pour cela dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 où il est écrit le suivant. L'apôtre Paul disait, mais je crains que comme le serpent séduisit Ève, par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Et en anglais, il est écrit, mais je crains que comme le serpent tenta Ève par sa ruse. La séduction est synonyme de la tentation. Par la tentation, le diable nous séduit et cherche à nous amener, à nous pousser à commettre le péché. Commettre le mal, parce que nous avions lu, ne nous induis point en tentation et délivre-nous du mal. Car la tentation nous pousse et nous attire au mal, à commettre le péché, ce qui est synonyme. Car, nous lisons dans 1 Jean, je crois c'est chapitre 2 ou 3, le péché est la transgression de la loi, c'est commettre le mal, transgresser la loi de Dieu, c'est plonger dans le mal. Et nous lisons que Ève, ainsi que Adam, à travers elle, fut séduite par le serpent. Serpent fut tenté par ses ruses et fut ainsi corrompue. Elle fut corrompue et la tentation détermina de qui elle est devenue, ainsi qu'Adam. D'ailleurs, nous y allons vers Genèse chapitre 3, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5 plutôt. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, « Quoi ? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ? » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais... » Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Rappelez-vous la prière que Jésus nous a enjointe, c'est « Ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal. » Or, la tentation est le stratagème par lequel le diable cherche à nous faire commettre le mal, à nous faire tomber dans le mal, à nous faire commettre le péché, en nous proposant un mélange de bien et de mal qui, selon sa séduction et ses prétentions, va nous rendre comme des dieux. Il promit à Ève et il promet encore à nous qui vivons en ces derniers jours une élévation, un bienfait à retirer d'un mélange entre le bien et le mal. Or, parce que à la création nous lisons que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et que voici, je cite, c'était très bon. Nous, dans Genèse chapitre 1, verset 31, nous concluons par cela que tout ce que Dieu avait fait était bon, était bien, c'était même très bon. Or, donc, nous arrivons à conclure que Dieu, dans ce qu'il avait proposé à nos parents de ce dont ils pouvaient jouir dans le jardin d'Éden en résultat de ce qu'il avait créé qui était très bon, nous pouvons conclure par la parole de Dieu que Dieu n'avait retenu rien de ce qui était bon et bien à nos parents. Il n'avait rien refusé de bien à nos parents. Ainsi, ce que le diable promit et par quoi il tenta nos premiers parents, ce n'était pas le bien, c'était exclusivement le mal, simplement en le mélangeant au bien. Et c'est précisément selon ce même principe que le diable nous propose encore aujourd'hui toujours quelque chose que Dieu nous a interdit, et notre réponse détermine si nous sommes dans une relation d'obéissance ou de désobéissance à lui. J'ai marqué la tentation et le moyen par lequel Dieu, dans son orchestration du libre arbitre du diable, de ses anges et des hommes, nous met à l'épreuve et cherche à savoir si nous serons des sujets fidèles de son royaume éternel. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est que la tentation est toujours une présentation de quelque chose qui semble profitable parce qu'il y a du bien dedans, mais qui est de la même nature qu'un poison. La tentation, je répète, est un mélange de bien et de mal. Or, à nos premiers parents ainsi qu'à nous, Dieu n'a jamais refusé quoi que ce soit de bien. Simplement, le diable s'est octroyé la possibilité et la fenêtre d'activité pour pouvoir nous proposer ce mélange constamment. La tentation est constamment cette répétition du principe selon lequel le diable fonctionna avec nos premiers parents en leur présentant quelque chose qui semblait profitable, qui allait les élever dans leur sphère d'expérience, d'intelligence, de moments, de plaisir, etc. Mais qui s'avéra être aboutir à quelque chose de profondément malheureux. Ce que le diable avait présenté comme quelque chose qui allait leur octroyer, leur donner, leur faire l'expérience d'un grand bonheur, se retrouva à être en fait la source d'un grand malheur. Parce que nous lisons après que quand Ève et Adam eurent mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du Dieu et du bien et du mal, ils fuyèrent de devant la face de l'Éternel. Adam et Ève se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin quand celui-ci vint au vent du jour se promener dans le jardin comme il avait l'habitude de faire. Donc nous commençons à avoir un certain sens à la fois de la signification et des implications de cette prière selon laquelle nous prions à Dieu, nous sommes appelés à prier à Dieu, ne nous induit point dans la tentation. Ne nous induit point, c'est-à-dire ne nous fait point tomber dans la tentation. Mais vous notez que Adam et Ève aussi auraient pu prier cette prière, mais pour pouvoir exaucer eux, par exemple, cette prière qui aurait également pu être la leur, s'ils avaient su que le diable, et en effet, nous lisons dans l'esprit de prophétie que ils avaient été mis en garde sur la présence du serpent dans le jardin d'Éden, pour eux, exaucer cette prière, ça aurait été de eux-mêmes faire attention à ne pas tomber dans la tentation, et c'est ce même principe qui s'applique à nous aujourd'hui vis-à-vis de cette prière et de notre devoir. Et donc, comme je l'ai dit, Dieu, à travers la tentation, comme ce fut le cas à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où était présent le serpent, c'est-à-dire Satan, Dieu cherche à nous éprouver. C'est pour cela que je disais que la tentation est le moyen par lequel notre caractère est déterminé et façonné, parce que nous montrons par notre réponse à la tentation, par notre réponse, pour ainsi dire, à la tentation du serpent, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous montrons quel genre de personne nous sommes. Nos premiers parents ont montré qu'ils étaient désobéissants, et après, ils ont pu, par la suite de leur désobéissance, montrer le caractère qui était le leur, en comment ils allaient réagir à la grâce que Dieu leur proposait par la suite, pour le rachat et le salut de leur âme, où ils seraient encore confrontés à bien des tentations, parce que la tentation, au début, n'était que le début de la tentation lorsqu'ils y eurent cédé. Ensuite, les tentations se multiplièrent et continuèrent. Elles continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce que je cherchais à dire, c'est que Dieu nous met à l'épreuve maintenant, à travers la tentation, et cherche à savoir si nous ferons, quel genre de personnes nous serons et nous sommes. Si nous ferons, nous constituerons des sujets fidèles de son royaume éternel. Comme c'était d'ailleurs le cas pour nos premiers parents. J'aimerais lire ici Patriarches et prophètes à la page 25 page 25 et au paragraphe 6 tout d'abord et suivant. Bien que créés innocents et saints, nos premiers parents n'échappaient pas à la possibilité de faire le mal. Faire le mal. Transgresser la loi de Dieu. Tomber dans la tentation. Nos premiers parents n'échappaient pas à la possibilité de faire le mal. Dieu avait fait d'eux des agents moraux, libres, capables d'apprécier la sagesse et la bienveillance de son caractère et la justice de ses exigences, et ayant la pleine liberté d'obéir ou de désobéir. Ils jouissaient de la société de Dieu et des saints anges, mais ils ne pouvaient être en état d'éternelle sécurité tant que leur fidélité n'avait pas été mise à l'épreuve. Notez bien, Adam et Ève ne pouvaient être en état d'éternelle sécurité tant que leur fidélité n'avait pas été mise à l'épreuve. Et comment serait-il mise à l'épreuve? Nous allons le voir par la suite, mais nous l'avons déjà vu en somme à travers ce principe qui nous est présenté dans Genèse chapitre 3, à travers la tentation. Et de la même manière que eux ne pouvaient être en état d'éternelle sécurité tant que leur fidélité n'avait pas été mise à l'épreuve, ainsi en est-il aussi de nous. Tant que notre fidélité n'a pas été pleinement mise à l'épreuve et soit assurée, soit reniée complètement, notre propre état de sécurité éternelle ne peut être garanti. À la fois pour nous et devant Dieu. Dieu a besoin de savoir que lorsque la racine et les branches Satan et ses anges et tous ses partisans auront été brûlés, nous-mêmes, nous ne referons pas renaître le mal dans le ciel. Donc toutes ces choses ont besoin d'être complètement éliminées de notre caractère et cela, Dieu le fait à travers la tentation en permettant au diable d'agir comme il avait agi à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, simplement maintenant plus pour nos parents car ils sont morts, mais pour nous, car nous sommes vivants et nous avons besoin d'être mis en parfait état d'éternelle sécurité, et cela ne peut être accompli que à travers la mise à l'épreuve de notre fidélité. Et donc, lorsque nous vacillons, nous montrons encore, que notre état n'est pas encore celui d'une éternelle sécurité, mais que nous avons besoin d'être purifiés, afin que nous puissions, que notre fidélité puisse être éternellement vérifiée et ferme, éternellement solide. C'est ça l'objectif de la tentation. Vous vous disiez peut-être des fois, pourquoi je suis tenté? Pourquoi je traverse cela? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Ta, 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 ta. Le caractère. Le caractère. Dieu et nous-mêmes avons besoin de savoir quel genre de personne nous sommes et nous serons. Et Dieu ne peut le savoir et nous ne pouvons le déterminer qu'à travers notre réponse à la tentation. Je poursuis. Ainsi, dès le début de l'existence de l'homme, une restriction lui fut imposée qui mit une bride au désir de satisfaction personnelle. Je l'ai traduit tel que c'était en anglais parce que c'est très important parce que cela définit exactement quel est notre problème en ces derniers jours, comme cela l'était dès le premier jour, pourrait-on dire ainsi, en Éden. C'est également le désert. Le même problème qui était ceux de nos parents lorsqu'ils étaient innocents et qu'ils avaient une chair parfaite est celui maintenant, à bien plus forte raison, de nous-mêmes qui sommes non pas innocents mais coupables et qui ont une chair non pas parfaite mais de péché. Quel est ce problème? Celui du désir de satisfaction personnelle. Dieu avait mis une bride à ce désir de satisfaction personnelle sur nos parents en leur interdisant formellement et strictement de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu nous met une bride également à travers, parmi tant d'autres choses, sa loi, et comme l'esprit de prophétie nous le dit, à travers le sabbat. Mais cela n'est que une portion, parce que dire juste un jour, ce n'est pas juste un jour, c'est de prendre en compte ce jour et de vivre en harmonie avec toute la loi de Dieu, toute la loi de Dieu, tous les jours. Et en cela, cela constitue une bride sur notre désir de satisfaction personnelle, que ce soit par rapport au sabbat ou par rapport à quelconque autre pratique personnelle qui soit avec, en accord ou en désaccord avec les principes justes et purs de la loi de Dieu, de notre devoir envers Dieu et de notre devoir envers notre prochain. Je relis. Donc, ainsi, dès le début de l'existence de l'homme, une restriction lui fut imposée qui mit une bride au désir de satisfaction personnelle, cette passion fatale qui avait causé la perte de Satan. L'arbre de la connaissance, placé au milieu du jardin, près de l'arbre de vie, devait servir à éprouver l'obéissance, la foi et l'amour de nos premiers parents. Admis à manger librement du fruit de tous les autres arbres, il ne pouvait, sous peine de mort, goûter à celui-là. S'il triomphait de l'épreuve, il serait finalement soustrait à la puissance de l'ennemi et demeurerait à perpétuité dans la faveur de Dieu. Si quoi? S'il triomphait de l'épreuve, il serait finalement soustrait à la puissance de l'ennemi et demeurerait à perpétuité dans la faveur de Dieu. Il n'existe pas de gouvernement sans loi. L'une des conditions indispensables de l'existence de l'homme était, en sa qualité de sujet, l'obéissance aux lois de Dieu. Adam aurait pu être créé incapable de transgresser sa loi. Le Créateur aurait pu empêcher sa main de toucher aux fruits défendus. Mais dans ce cas-là, privé de la faculté de choisir, l'homme aurait été non pas un être libre, mais un simple automate. Un automate. Dieu n'a pas fait un automate. Ni lui, ni eux. Pardon, ni lui, et Ève également, ni eux, ni nous. Nous sommes des automates. Son obéissance aurait été forcée et non volontaire. Adam n'aurait pas pu se former un caractère. Oui, le fait qu'une bride ait été placée sur le désir naturel de satisfaction personnelle et qu'une interdiction avait été placée sur nos premiers parents constituait l'occasion pour Adam de se former un caractère. Pourquoi? parce que le caractère se forme à travers les décisions que nous prenons de manière délibérée et libre. Non pas de manière contrainte, c'est-à-dire forcée, où nous n'avons pas le choix, mais de manière où notre liberté est préservée. C'est ce que Dieu fit pour nos premiers parents, d'ailleurs, c'est ce que Dieu fit même pour les anges, parce que c'est précisément en raison de cette liberté, du libre arbitre, de la préservation du libre arbitre de ces créatures, que Dieu a toujours mis en place et toujours respecté, que Satan a pu devenir qui il est devenu. Parce que si Dieu n'avait pas préservé ce libre arbitre dont il dote chacune de ses créatures, Satan, même dès le début, n'aurait pas pu se rebeller parce que Dieu l'aurait contraint, Dieu l'aurait empêché, comme un automate, comme un robot. Mais ce n'est pas ainsi qu'il a fait ses créatures, et ce n'est pas là non plus son caractère à lui. Adam, son obéissance, alors, si c'était un robot, aurait été forcé et non volontaire, Adam n'aurait pas pu se former un caractère. D'ailleurs, ce système eût été contraire au plan de Dieu à l'égard des habitants des autres mondes. Ce mode d'existence aurait été indigne de l'homme en tant qu'être intelligent et eût fortifié l'accusation d'arbitraire lancée par Satan contre le gouvernement divin. Hein? Satan, il dit, Dieu, c'est un Dieu arbitraire, il est vengeur, il est vindicatif, il n'en fait qu'à sa tête. Dieu est un Dieu qui n'en fait qu'à sa tête, il est injuste. On ne peut pas compter sur la justice de la part de Dieu. C'est ça les accusations de Satan et bien plus encore. Et ça aurait été vrai si Dieu avait en effet contraint le libre arbitre de ses créatures, ce qu'il ne fait absolument pas et ce dont nous en avons la preuve dans la vie de tous les jours. Tous les maux, toutes les tristesses, toutes les peines sont le fruit de la préservation du libre arbitre de l'homme par Dieu lui-même. Donc, ces arguments qui sont présentés par l'ennemi pour justifier son accusation d'un Dieu arbitraire sont précisément ces réalités qui mettent en lumière le fait qu'il est exactement le contraire de cela. Et cela, nous le voyons dans notre capacité à choisir d'obéir ou de désobéir à Dieu lorsque nous sommes confrontés à la tentation. J'aimerais lire la citation suivante également, en lien avec ce que nous avons lu dans le passage de Corinthiens chapitre 11, verset 3, qui nous disait que le diable séduisit Ève. Il tenta Ève. Nous avons lu également que nos premiers parents, leur fidélité fut mise à l'épreuve à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ici, c'est réitéré de manière très courte dans Christ Triumphant à la page 289 et au paragraphe 6, il est écrit le suivant. Adam et Ève furent mis à l'épreuve et échouèrent. Satan séduisit Ève et celle-ci désobéit à Dieu. Le saint couple, n'ayant pas résisté à la tentation, fut placé sous la juridiction de Satan. L'ennemi devint ainsi le maître de la race humaine et introduisit la mort, conséquence de la désobéissance. Introduisit la mort. Hein? Lui qui disait « tu ne mourras point », le fait de céder à ses tentations produisit précisément ce qu'il avait dit qu'il n'allait pas se produire. Donc le diable, il nous dit « vous allez devenir comme des dieux, votre vie va s'embellir, elle va s'améliorer seulement si vous cédez à cette tentation-là qui est vraiment moindre, c'est vraiment une toute petite chose. » Il leur avait dit « votre vie, elle va être meilleure, ça va être toute une réalisation », et pendant un certain moment, Ève a eu cette euphorie, elle se disait, Waouh, mais c'est écrit comme cela dans Patriarches et Prophètes. Elle a eu ce moment euphorique où elle a eu l'impression d'avoir atteint une sphère supérieure de connaissance et de conscience. Vous savez ce qu'ils disent aujourd'hui dans le New Age, c'est la conscience supérieure, etc. Et Ève avait ce sentiment pendant un moment jusqu'à ce que, voilà, tout dégringole dans son expérience et elle se rendit compte qu'elle était maintenant dans une condition avec son mari où elle craignait Dieu alors qu'avant elle l'aimait. La tentation produit cela et donc ce que le diable avait promis ne s'est pas réalisé, si ce n'est pendant quelques instants après avoir goûté du fruit de la connaissance du bien et du mal, ce qui est une illustration de ce qui nous arrive également lorsque nous cédons à la tentation parce que il nous semble que quelque chose de merveilleux va sortir et aboutir de notre désobéissance, mais au final, après quelques moments d'extase et qui nous semblent présager une nouvelle réalité, eh bien, nous tombons dans la conscience et la réalisation que ces choses-là ne durent pas, mais que au final, notre conscience revient comme un boomerang et nous dit que nous aurions mieux fait de prendre notre croix. Nous aurions mieux fait d'être obéissants au prix d'un renoncement que de nous laisser aller et d'en souffrir les conséquences qui sont celles d'une conscience accusatrice et d'une loi qui nous condamne et d'un sentiment d'avoir déçu Dieu. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons nous relever d'avoir cédé à la tentation et apprendre nos erreurs et nous réclamer du sang de Christ et des mérites de Jésus comme sauveur pour pas uniquement nous sauver de nos péchés dans l'acte, mais nous sauver des conséquences de nos péchés, à savoir de la condamnation de la loi et de nous mettre maintenant sous la grâce, comme nous disait l'apôtre Paul. Vous êtes non pas sous la loi, c'est-à-dire non pas sous la condamnation de la loi si vous êtes en Christ, mais vous êtes sous la grâce. Et donc là où le péché a beaucoup abondé et s'est beaucoup multiplié, la grâce a abondé plus encore, nous dit les paroles de l'Évangile. Et donc, lorsque le péché nous a séparés de Dieu, nous pouvons avoir recours à la grâce de Dieu comme cela, mais nous cherchons ici aujourd'hui, hormis cela, à comprendre les ramifications de la tentation pour pouvoir y échapper dès ces premières lueurs. Nous pouvons nous réclamer de la grâce de Dieu et du pardon de Dieu pour nous racheter de nos errances et nos erreurs, mais au-delà de simplement cela, nous voulons également pouvoir cerner comment préserver et garantir éternellement notre fidélité à Dieu. C'est cela l'objectif premier de notre méditation. Donc nous avons lu que l'arbre de la connaissance devait constituer un test, une mise à l'épreuve de l'obéissance, de la foi et de l'amour de nos premiers parents. Devait servir à éprouver nos parents. Et ici, j'aimerais, pour continuer, lire ce passage de Jacques, chapitre 1, verset 13. Jacques, chapitre 1. Versets 13 à 15, où nous avons ici le processus de la tentation. Voilà comment il est exprimé par la parole de Dieu, le processus. Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. et le péché étant consommé, engendre la mort. Donc, qu'est-ce que nous lisons ? Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, ou un autre mot serait par son propre désir. La tentation fait appel à nos désirs, qu'ils soient des désirs nobles ou des désirs impurs. Quelle que soit la nature de ces désirs, la tentation va le diable, à travers le monde et notre chair, va chercher à faire usage de nos désirs, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient de nature à être utilisé en bien ou de nature à être uniquement perverti ou perverti en eux-mêmes. J'aimerais lire ici la citation suivante dans Message à la jeunesse, voilà. Message à la jeunesse, à la page 428 et au paragraphe 1er, où il est écrit ceci. Chacun est tenté quand il se laisse attirer et amorcer par sa propre convoitise. En suivant ses inclinations, il se détourne de la vertu et du véritable bien. Les plus fortes tentations resteraient sans effet si la jeunesse était moralement intègre. C'est l'affaire de Satan de vous tenter, mais c'est la vôtre de lui résister. Toute la puissance réunie des armées de Satan ne peut contraindre quelqu'un à la transgression. Le péché est sans excuse. Qu'est-ce que c'est? Chacun est tenté lorsqu'il se laisse attirer. Hein, vous notez le langage. Lorsqu'il se laisse attirer et amorcer par sa propre convoitise. Amorcer, c'est-à-dire que c'est comme un déclencheur. La propre convoitise va être comme une accroche. Vous savez, sur ces murs d'escalade, vous avez des prises. La convoitise de l'homme ou de la femme va être la prise sur laquelle le diable va s'accrocher pour pouvoir parvenir à des plus grandes hauteurs dans son emprise sur l'être humain, c'est-à-dire sur nous. C'est le moyen par lequel il peut entrer dans nos cœurs, dans nos propres désirs. Et ensuite, mais il y a aussi un élément du choix, car nous avons vu que la tentation est le moyen par lequel nous formons nos caractères à travers notre réponse et nos réactions à celle-ci. Je lis, en suivant ses inclinations, l'homme se détourne de la vertu et du véritable bien. En suivant nos inclinations naturelles pécheresses, nous nous détournons de la vertu et du véritable bien. Le mot véritable bien est à noter parce que le diable propose également le bien. Mais il ne le propose pas seul. Vous savez, donc c'est un paquet, pour ainsi dire. C'est un coffret. Simplement, dans ce coffret, vous ne pouvez pas choisir d'avoir seulement le bien parce que le diable, lorsque vous allez dans son magasin, il ne vend jamais le bien seul. Le seul qui vend le bien unique et seul avec la pureté et la justice et la noblesse d'esprit, c'est Christ. Comme c'est marqué dans Apocalypse chapitre 3, verset, je pense, 15 et 16, où il dit, je t'encourage, qu'est-ce que c'est? Apocalypse chapitre 3, excusez-moi, je crois que c'est verset 18, donc verset 17, il dit, voilà, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, tu dis tout ça, en fait, ce n'est pas le cas. Verset 18, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs pour être vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc, Dieu, tout ce que Jésus propose, c'est bien. Jésus ne propose que le bien. Jésus ne propose jamais un mélange trompeur, séducteur, tentateur. Jésus propose le bien, uniquement le bien des vêtements pour nous vêtir, de l'or pour être spirituellement riche, de la foi et de l'amour, un collier pour avoir du discernement. Dieu ne nous propose jamais autre chose que le bien, le véritable bien, mais lorsque nous nous laissons amorcer par nos propres convoitises et que nous suivons nos propres inclinations charnelles, c'est-à-dire que nous suivons la chair et non pas l'esprit, eh bien nous nous détournons du véritable bien pour aller vers le bien qui est mélangé à l'erreur. Et nous nous fourvoyons et nous nous plongeons dans la confusion parce que ensuite nous nous posons la question, mais comment cela se fait que je suis dans cette situation de condamnation alors qu'il y avait du bien? En effet, il y a du bien, mais le diable, il ne donne jamais le bien seul. Le diable ne donne jamais le bien seul. C'est ça que nous devons retenir. Parce que c'est comme cela que nous pouvons arriver à faire sens du sentiment de confusion qui souvent s'élève dans nos esprits lorsque nous sommes tentés par quelque chose qui semble bien mais qui n'est pas juste bien. C'est précisément là la force de la tentation, c'est que le diable vient s'agripper sur l'arbre de la vérité et comme un parasite, il vient y mettre plein de champignons de l'erreur et ensuite il propose ça aux croyants et dit regarde, c'est merveilleux, mais ensuite l'arbre il est bouffé de l'intérieur, il est pourri. C'est comme cela que le diable nous fait tomber dans la tentation et la prière que Jésus a mise sur nos lèvres, c'est ne nous induis point dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous fais point tomber dans la tentation. Et Dieu n'est point tenté et ne tente personne, donc en réalité ce que nous disons à Dieu c'est aide-moi Seigneur à ne pas me laisser aller par mes propres inclinations, à ne pas tomber dans ces tentations à un bien détourné. Le seul véritable bien, c'est le bien que Dieu propose, c'est le bien que Dieu proposait à l'arbre de vie. Donc c'était l'arbre de vie, c'est l'arbre du bien, l'arbre du véritable bien. Et le diable, il donnait sa propre fabrication, il disait, voilà, moi j'ai quelque chose de beaucoup mieux, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous allez voir, ça va être merveilleux. C'est comme le parcours d'attraction, et ensuite nos premiers parents ont mangé, ils ont dit, ah, c'est la publicité mensongère. C'est la publicité mensongère, vous voyez? La publicité, ils disent, ah, des panneaux solaires, tout est pris en compte par l'État, et vous dites, oh, waouh, vous vous discutez avec les personnes, et ils disent, en fait, c'est pas pris en compte du tout. Pas pris en compte du tout. Mais j'ai pas l'argent, moi. J'ai pas l'argent. Je pensais que c'était tout gratuit. Non, c'est pas gratuit. Faut payer. Et le diable également, il dit, non, non, vous n'aurez pas à mourir. Vous n'aurez pas à payer. Et ensuite, vous mourrez et vous devez payer. Vous comprenez? C'est ça, la publicité mensongère du diable, c'est qu'il propose des choses qui nous semblent alléchantes. Et ensuite, nous sommes là et nous disons, j'ai rien eu de tout ce que tu m'as proposé. Le diable est un menteur depuis le début, depuis le commencement. Pas juste depuis nos premiers parents, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais depuis le début, avant même cela. Il était un menteur même dans le ciel. Il a menti aux anges. Il les a amenés jusqu'ici dans son œuvre ténébreuse qui ne leur amène aucun profit et qui ne nous amène aucun profit si nous tombons dans cette œuvre et dans la tentation. Vous voyez? Vous voyez, ce sont les leçons qu'il nous faut apprendre et dont il nous faut tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons que la parole de Dieu nous donne. Souvent, nous lisons les leçons. Et ensuite, il nous faut tirer des leçons de notre propre expérience, illuminées par les leçons de la parole de Dieu, qui nous avait déjà dit. Je t'avais déjà dit. Et ensuite, nous apprenons. Et nous faisons des expériences. Et nous sommes appelés à former un caractère fidèle. Afin que nous puissions être des sujets fidèles du royaume, non pas passager, mais éternel de Dieu. Et donc, nous réfléchissons au fait que Dieu, son acte, littéralement, comme c'est en anglais, l'acte de Satan, c'est de tenter, mais notre acte, c'est de lui résister. Notre responsabilité, celle qui nous incombe, c'est de résister au diable. Le diable ne peut que nous tenter, il ne peut pas nous forcer. Toute la puissance réunie des armées de Satan ne peut contraindre personne à la transgression. Le péché est sans excuse. Donc, le reste, je vais passer. J'avais une citation dans Signs of the Times. Je vais vous la laisser pour votre propre lecture, dans votre propre temps libre. J'aimerais passer à la suite de notre méditation pour nous diriger vers la conclusion. Et donc, Ce que nous voulons, c'est répondre à notre propre prière. La prière nous dit « Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal. » Donc j'ai déjà mentionné comment nous pouvons faire cela, mais je veux que nous y allions plus en détail, plus en profondeur dans cela. Comment pouvons-nous répondre et exaucer autant que possible notre propre prière? L'une des réponses à cela se trouve dans le psaume 119. Le psaume 119, versets 9 et 11, où il est écrit tout simplement ceci. Comment pouvons-nous répondre à notre propre prière, exaucer notre propre prière? Nous disons à Dieu, Seigneur, ne m'induis point dans la tentation, Seigneur. Et que répond l'Éternel? Le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Comment vais-je rendre pure ma voix? Comment vais-je ne plus tomber dans la tentation? Le jeune homme ou le moyen homme ou le vieil homme, peu importe, tous les hommes, quelle que soit leur âge, ont besoin de rendre pure leur voix pour que leur voix soit pure, pour que leur caractère, soit pur, soit purifié, car nous vivons dans la purification du sanctuaire. Nous avons tous besoin que notre voix soit purifiée. Comment le jeune homme ou le moyen homme ou le vieil homme, ou la vieille femme, rendra-t-il pure sa voix? Telle est la question. C'est en y prenant garde selon ta parole. En prenant garde à nos voix, en prenant garde à ma voix, selon la parole de Dieu, selon l'esprit de la parole de Dieu. Parfois, vous ne vous rappelez pas. C'est bien de se rappeler. Parfois, vous ne vous rappelez pas, quoi qu'il en soit. Et vous dites, je ne sais pas, quel est le chemin ici? Et il nous faut prendre garde à notre voix selon la parole de Dieu. Parce que si nous ne faisons pas cela, quel est mon point de référence? Je n'ai point de point de référence. Je n'ai aucun point de référence si ce n'est, comme nous l'avons lu, mes propres inclinations. Or, mes inclinations sont comme le vent qui va ça et là au gré des tentations. La tentation souffle d'un côté, la tentation souffle de l'autre. Si mon seul point de référence sont mes inclinations, ma propre convoitise, ma propre idée, mon propre ressentiment, je ne peux que toujours céder à la tentation. Je suis victime du vent, le vent des doctrines, le vent de la tentation. Je peux croire toute la vérité, mais toujours être poussé, ballotté par le vent, ça et là. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de prendre garde à ma voix selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole sur cette chose-là? Est-ce que cette chose est bien? Est-ce qu'elle n'est pas bien? Et parfois nous nous disons, oui, mais ça va être très profitable. Et la réponse dans notre fort intérieur devrait être, mais que dit la parole? C'est cela la vraie réponse, parce que c'est la parole qui va revenir m'aider lorsque je serai tombé. Et donc ce serait la parole qui devrait m'aider avant que je tombe. C'est la parole qui doit m'aider dans quelque situation dans laquelle je me trouve. C'est en y prenant garde à notre voix, selon ta parole, que nous la rendrons pure, que nous rendrons pure notre voix, que je rendrai pure ma voix. Verset 11, « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas tomber dans la tentation. » Tomber dans la tentation, c'est péché, car nous avons lu que quand la tentation arrive, elle produit le péché, le péché étant consommé, produit la mort, n'est-ce pas? Tentation, péché, péché, mort. Boum. Et donc, si je ne veux pas commettre le péché, il faut que je résiste à la tentation, et je ne peux faire cela qu'en serrant la parole de Dieu dans mon cœur, à savoir, dans mon esprit. Dans mon esprit, le cœur est souvent utilisé dans la parole de Dieu comme symbolique de notre esprit. C'est comme quelque chose de proche de nous. Hein? On dit « je te porte dans mon cœur ». En réalité, on ne porte personne dans notre cœur mentalement parlant, mais nous l'avons à l'esprit. C'est quelque chose de proche de nous, proche de la source de vie. Le cœur, c'est là où bat notre vie. Lorsque le cœur cesse de battre, nous n'avons pas de vie. Lorsque nous portons quelqu'un sur le cœur, c'est que nous le portons proche de nous-mêmes, parce que notre cœur est ce qui nous fait vivre. Ça a un sens. Et c'est comme ça que Dieu l'entend. Lorsque je serre la parole de Dieu dans mon cœur, c'est-à-dire que je la garde intimement, étroitement, proche de mes plus personnelles convictions et réflexions. Je réfléchis. Seigneur, je t'aime, mais je n'ai pas été fidèle. Il faut que je réfléchisse. Que dit ta parole, Seigneur? Ou plutôt, que dis-tu dans ta parole que je devrais faire? Quand, lorsque nous sommes tentés par diverses choses qui puissent venir à nous de quelque coin de la terre et de notre vie qu'elles puissent venir, notre réflexion devrait être, Seigneur, ces choses-là me tentent, ces choses-là cherchent par celles-là, par ces choses, le diable cherche à me faire tomber, à me projeter dans le mal. Que dit ta parole sur ces choses-là? C'est cela que nous devons chercher à savoir. C'est sur cela que nous devrions méditer pour pouvoir être gardés de la tentation et pour pouvoir exaucer notre propre prière. C'était ça le sujet. Comment puis-je exaucer ma propre prière? En serrant la parole de Dieu dans mon cœur, en prenant garde à ma voix selon la parole, en réfléchissant à la parole dès le matin, le soir, de manière à former un caractère et des habitudes de pensée. J'aimerais terminer par cela. Beaucoup d'autres choses pourraient être dites, comme par exemple si je vais lire le passage suivant qui se trouve dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, verset 37 à 38, un autre élément par lequel nous pouvons exaucer notre propre prière, il se trouve ici. Lorsque Jésus était au jardin de Gethsémané, il priait pour lui-même ainsi que pour ses disciples. Il disait, verset 37, il revint et trouva ses disciples endormis, alors que lui-même était allé veiller et prier. Il revint et les trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors? N'as-tu pu veillez une heure, veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. L'esprit est prompt, c'est-à-dire bien disposé, mais la chair est faible. C'est pour cela qu'il nous faut veiller afin d'accomplir non pas les désirs de la chair, mais la volonté de Dieu par l'Esprit. Il nous faut veiller parce que si nous ne veillons pas, nous finirons par accomplir les désirs de la chair. Il nous faut veiller et prier de peur que nous ne tombions dans la tentation. Non pas simplement prier, dire des choses à Dieu, exprimer de manière très vive et éloquente et enthousiaste pendant un bref moment notre volonté dans l'idéal à Dieu, mais veiller dans la prière, veiller et prier, disait le Seigneur. Pourquoi? Parce que parfois nous pouvons ne pas nous rendre compte de la faiblesse de nos motivations dans l'immédiat qui souvent ne se retranscrivent pas dans l'action sur le long terme, et c'est pour cela que nous avons besoin de veiller dans la prière, veiller à accomplir nos propres désirs dans l'idéal, mais dans le long terme. C'est-à-dire, dans l'idéal, je prie à Dieu et je dis, voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, je veux faire. Mais ensuite, dans l'action, parfois, cela ne se traduit pas, nous oublions parce que nous ne veillons pas. Nous sommes vivants, mais pas vigilants. C'est-à-dire, nous pouvons vivre, mais être endormi. Comme d'ailleurs c'est marqué dans un Thessaloniciens, je crois, ne dormez pas comme le monde dort. C'est-à-dire que nous pouvons vivre, mais être un peu comme des zombies. Et nous ne pensons pas spirituellement à ce que la parole dit. Être veillé dans la prière, c'est réfléchir aux implications de nos actions en lien avec Dieu, en lien avec la volonté de Dieu, en lien avec la parole de Dieu. Et cela, nous ne pouvons le faire qu'en veillant, c'est-à-dire en étant vigilant, en réfléchissant aux implications de chaque action que nous prenons, chaque décision que nous prenons, chaque action que nous faisons par rapport à la tentation. Il nous faut, et Jésus nous appelle à veiller et prier. Ici, j'aimerais conclure cette méditation et encore une fois, hein, toutes les autres citations que j'avais prévues, vous pouvez les trouver dans le PDF, comme à mon habitude. Mais il y a sept citations que j'aimerais mettre en avant pour conclure. Donc ça, nous avons vu par la parole, en veillant. Et maintenant, j'aimerais lire une autre citation qui permet de cerner l'ensemble de l'activité qui nous permettra de résister à la tentation de manière intelligente, de manière constante. C'est de cela dont nous avons besoin. Voilà, dans In Heavenly Places, à la page 159 et au paragraphe 5, il est écrit le suivant. Il arrive que l'éducation et les apprentissages de toute une vie doivent être oubliés pour que l'on puisse devenir disciple à l'école de Christ. Il faut éduquer nos cœurs à demeurer fermes en Dieu. Il faut éduquer nos cœurs à demeurer fermes en Dieu. Nous devons former des habitudes de pensée qui nous permettront de résister à la tentation. Nous devons apprendre à regarder en haut. Les principes de la parole de Dieu, principes aussi élevés que le ciel et embrassant l'éternité, doivent être compris dans leur influence sur notre vie quotidienne. Toute action, toute parole, toute pensée doit s'harmoniser avec ces principes. Quels principes? Les principes de la parole de Dieu. Toute action, toute parole, toute pensée dans notre vie doit s'harmoniser avec ces principes de la parole de Dieu. Des principes aussi élevés que le ciel et embrassant l'éternité. Nous devons apprendre à regarder en haut. Qu'est-ce que c'était juste avant? Nous devons comprendre comment les principes de la parole de Dieu influe notre vie quotidienne. Le lien entre ces principes et notre vie quotidienne, c'est ce que nous devons apprendre à former dans nos pensées. Nous avions lu, nous devons former des habitudes de pensée qui nous permettront de résister à la tentation. Et comment formons-nous ces pensées? À travers l'étude de la parole de Dieu et en veillant dans la prière afin de réfléchir et introduire ses pensées dans chaque action, chaque pensée, chaque parole de notre vie quotidienne. Vous voyez? C'est ainsi que nous formerons des habitudes de pensée qui nous permettront de résister à la tentation. Pourquoi? Parce que notre caractère est formé à résister à la tentation. Par quel moyen? À travers la réflexion constante, intime, personnelle, réelle de la parole de Dieu dans son influence sur toutes les activités de notre vie quotidienne. Vous voyez? C'est ce que nous avons besoin de faire afin de pouvoir réaliser toute l'ampleur de la signification des paroles de Jésus dans la prière qu'il nous a commise, remise, confiée, et parmi laquelle se trouvaient ces mots, ne nous induis point dans la tentation. Pour pouvoir arriver à l'exaucement et la réalisation parfaite de ces paroles, il nous faut former des habitudes de pensée qui nous permettront de résister à la tentation. J'aimerais terminer par cette citation dans Heavenly Places à la page 26 et au paragraphe 3 et 4. La sanctification est l'œuvre non pas d'un jour ou d'une année, mais de toute une vie. La lutte pour la victoire sur le moi, pour la sainteté et le ciel est une lutte de toute une vie. La sanctification de Paul était le résultat d'un conflit constant avec lui-même. Il disait de point, « Je meurs chaque jour ». C'est par un effort incessant que nous conservons la victoire sur les tentations de Satan. Il nous faut chercher l'intégrité chrétienne avec une énergie inlassable et la maintenir avec une détermination sans faille. Et rappelez-vous, dans Message à la jeunesse, nous avions lu que si les jeunes avaient une moralité, pardon, une intégrité, eh bien, ils ne tomberaient pas aussi facilement dans la tentation. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'il est écrit qu'il nous faut chercher l'intégrité chrétienne. Parce qu'une intégrité chrétienne, ça veut dire que c'est un mur d'escalade où il n'y a aucune prise. Le diable, il ne peut pas monter ce mur. Vous comprenez? Il nous faut chercher l'intégrité chrétienne avec une énergie inlassable et la maintenir avec une détermination sans faille. Le christianisme est une science qu'il est nécessaire de savoir maîtriser, une science plus profonde, plus vaste, plus élevée que n'importe quelle science humaine. Tout comme les cieux sont plus élevés que la terre. L'esprit humain doit être discipliné, éduqué, formé, car nous devons servir Dieu de manière qui ne sont pas en harmonie avec nos penchants naturels. Hein? Vous avez pensé à ça ? Nous devons servir Dieu de manière qui ne sont absolument pas en harmonie avec nos penchants naturels. Et c'est donc pour cela que nous avons besoin de discipliner notre esprit et de former des habitudes de pensée qui nous permettront de résister réellement à la tentation. Il existe des tendances héréditaires et cultivées au mal qui doivent être surmontées. Qu'elles soient héréditaires ou cultivées, ces tendances, nous devons apprendre à les surmonter. Par la grâce de Dieu et la contemplation de la parole de Dieu. Il faut éduquer nos cœurs à demeurer fermes en Dieu. Nous devons former des habitudes de pensée qui nous permettront de résister à la tentation. Nous avons lu cela. Les enfants de Dieu doivent sceller leur destin par une vie de saints efforts et une stricte fidélité à ce qui est juste. Donc voilà, frères et sœurs, c'était en bref le message que je voulais vous proposer aujourd'hui. Nous avons donc vu qu'il est indispensable pour nous de former des habitudes de pensée qui nous rendront capables de résister à la tentation, que nous devons éduquer notre esprit par la parole de Dieu à fixer nos affections sur Jésus comme le refuge personnel de l'homme tenté. Notre refuge dans la tentation, nous devons éduquer notre esprit à voir et considérer et contempler Jésus comme cela. Et ainsi nous obtiendrons la victoire sur toutes nos tendances héréditaires ou cultivées au mal. Puisse le Seigneur nous aider dans cette entreprise. Je vous souhaite une bonne continuation. Que Dieu nous aide dans cela et nous encourage et nous inspire la réflexion sur sa parole, pouvoir vivre selon la parole de Dieu, non selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu, et ainsi ne pas céder à tous les penchants et toutes les tendances naturelles qui puissent être les nôtres, mais à ordonner notre vie selon cette parole, cette bonne parole, et que nous puissions aussi également apprendre à la considérer comme la révélation intime à nous-mêmes de Dieu et de Jésus dans cette vie et dans la prochaine. C'est ma prière, que Dieu vous bénisse, à très bientôt, au nom de Jésus. Amen.